Une question santé, appelez-nous.
Priorité santé, Marie-Éloi.
Vendredi, un dermatologue répondra à vos questions sur tout ce qui concerne les problèmes de peau, acné, eczéma, rides ou herpès. Comment avoir une jolie peau en bonne santé? Nous attendons toutes vos questions.
33 1 56 40 13 16 ou par email à priorité.santé@rfi.fr. Et rendez-vous vendredi sur RFI.
RFI, la radio du monde. Signe particulier.
André Cognard.
Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, il va beaucoup être question des arts martiaux aujourd'hui avec notre invité André Cognard. Arts martiaux et plus précisément d'aïkido. André Cognard vient de publier des mémoires d'outre-moi où il est beaucoup question d'aïkido et de tout ce qui tourne autour. Un livre publié aux éditions Santon. Bonjour André Cognard.
Bonjour.
Alors vous êtes venu spécialement pour cette émission, vous habitez dans la région de Saint-Étienne, c'est-à-dire dans le sud-est de la France, et vous deviez venir en avion privé,
oui.
Et malheureusement ça n'a pas pu se faire.
Non, ce sont les hasards de la technologie. Voilà, l'avion que j'avais réservé ne s'est pas posé hier soir de retour des Pyrénées à cause du mauvais temps.
Alors je dis ça, je donne ce détail à nos auditeurs, parce que pour vous, l'avion c'est une expérience globale qui a commencé avec l'aïkido, on va revenir à cette expérience du pilotage. André Cognard, dès l'âge de 15 ans, 12 ans ?
Oui, 12 ans.
Vous vous êtes intéressé à l'aïkido ?
Je me suis intéressé à l'aïkido parce que je m'intéressais à tout ce qui concernait le Japon. J'avais une fascination très jeune. Je crois que même c'est avant encore, vers 7 ans, que j'ai commencé à être attiré par ce qui était le Japon.
Qu'est-ce qui vous intéressait dans le Japon à l'âge de 7 ans?
Je crois que la plupart des gens qui évoquaient le Japon à l'époque l'évoquaient comme extrêmement étrange, extrêmement loin de nous. Et peut-être que c'est cet éloignement culturel qui m'attirait. Je vivais dans un monde qui, lui, avait ses repères culturels bien établis, bien structurés, et qui me semblait déjà un peu étroit pour moi. Et donc, ce qui était loin, ce qui était vraiment différent, radicalement différent, m'attirait. Mmh. Et je crois que, peut-être au fond, c'est cela qui m'a amené peu à peu, à me rapprocher des arts martiaux après avoir tenté de lire différentes choses sur le Japon, sur le Zazen, sur les différentes pratiques qu'on connaissait à l'époque.
Alors, pourquoi précisément l'aïkido? Parce que beaucoup d'enfants font du judo, par exemple.
C'est vrai. Il y a deux choses. De l'aïkido, on disait que c'était un art martial à part. Donc, encore une fois, il y avait une différence avec les autres arts martiaux qui m'intéressaient.
C'était ce à part qui vous intéressait, oui.
Et puis, un ami, un jour, avait vu une démonstration d'aïkido et m'en a parlé avec un enthousiasme incroyable. Et le mot aïkido m'a semblé vraiment avoir une sonorité magique. J'y suis allé parce que le mot me fascinait.
Alors, est-ce qu'on peut rappeler tout de suite, parce qu'on va beaucoup parler d'aïkido, ce qu'est cet art martial?
Oui, déjà, art martial, c'est important de le dire, parce que dans art martial, il y a deux choses qui sont assez peu compatibles, a priori, c'est art et martial. Martialité, ça renvoie à la guerre, à la violence, et art, plutôt à l'esthétique, à la paix, etc. Alors, on s'est... dialectique interne au mot art martial me paraît essentiel. Comment est-ce qu'on peut rendre compatibles ces deux choses-là? Voilà. L'aïkido propose quelque chose que peu de pratiques proposent. L'aïkido dit la violence est inévitable, elle existe, elle est un des moyens que le monde a de se protéger. Et on peut comme ça réprouver la violence, on est tous d'accord pour dire que la violence on est contre, que la violence on n'en veut pas, etc. Mais la réalité est tout autre. Et donc la question fondamentale c'est à quoi sert-elle cette violence puisqu'elle s'impose partout. Et généralement elle sert, je veux dire même, elle sert tout simplement à recréer le lien quand il n'y en a plus. Quand c'est l'étrangeté qui s'est installée entre des êtres, quand il n'y a plus de communication, la violence rétablit le lien. C'est la cohésion du monde qui joue à travers la violence. Et ça nous met en face de nos responsabilités. Ça nous oblige à nous dire, quand il y a violence, je n'ai pas fait le travail de lien, le travail de relation, le travail de mise en place d'un amour qu'il faudrait pour éviter la violence.
En 75, je crois, vous avez obtenu un diplôme d'enseignement de professeur de judo, d'aïkido, de karaté et même de kendo. Donc, vous pouvez en quelques mots, je sais que c'est peut-être un peu compliqué, nous donner la différence, par exemple, qu'il y a entre l'aïkido et le judo. qui était plus connu?
Alors, il y a différents aspects. Le judo, d'abord, est tiré majoritairement d'une école qui s'appelle Kitoryu. Kitoryu Jitsu, qui est une école dans laquelle on pratique des techniques où l'on saisit, où l'on met son corps en obstacle, où l'on étrangle, où l'on chute avec le partenaire dans un sutemi, etc. La technique en aikido est complètement différente. En aikido, on est plus distant, on reste droit, on projette l'autre mais sans jamais se déséquilibrer, on ne chute jamais avec lui. C'est vraiment une autre approche et c'est aussi, techniquement parlant, une origine un peu différente. Dans le judo, le sabre est un peu présent dans certains katas de haut niveau, mais globalement quand même, c'est pas ce qui marque le plus la pratique. Alors qu'en aikido, c'est évident que les armes, le sabre, le jiu, etc. ont beaucoup influencé la pratique. On peut dire que l'aikido est tiré en grande partie de Daito Ryujitsu, qui est l'école qui est, je dirais, la plus proche de ce qu'on a appelé les techniques de combat des samouraïs, voilà.
Alors, votre intérêt, votre passion pour l'aïkido a franchi une étape supérieure, ou une autre étape, quand vous avez rencontré un homme qui est devenu votre maître.
Oui, en fait, j'avais un peu marre de l'aïkido qu'on faisait en Europe à cette époque. Je faisais du kido
dans les années 70, 72, 73.
Et j'ai cherché, et bon, le hasard m'a mis, si le hasard existe, m'a mis sur la voie de Kobayashi Sensei. Et quand je l'ai rencontré, c'est sa cohérence précisément qui m'a frappé. Et puis c'est aussi cette esthétique absolument merveilleuse que lui mettait en avant.
André Cognard, vous l'avez rencontré où? Vous êtes allé au Japon?
Je l'ai rencontré à Paris la première fois. Ouais. En fait, j'étais allé voir un maître que je ne connaissais pas, parce qu'on m'avait dit beaucoup de mal de lui, donc comme j'étais pas satisfait de ce que je pratiquais, je me suis dit, si on me dit beaucoup de mal de lui, il y a des chances pour qu'il soit différent, donc peut-être que c'est intéressant. J'étais allé le voir, et j'ai vraiment pas compris pourquoi il était critiqué par les autres, parce qu'il faisait la même chose qu'eux. Et donc, j'ai pris la décision d'arrêter, et je lui ai dit, voilà, j'étais venu chez vous, je m'étais fixé un délai, et maintenant j'arrête la pratique de l'aïkido, parce que ça ne me satisfait plus.
Alors, quelle est la relation qu'il peut y avoir entre un élève et un maître en aïkido? Là encore, il s'agit plus de sport, hein, c'est une philosophie.
Hein, ouais, c'est au-delà. Je vais quand même finir cette partie, parce que ça sera incompréhensible. Quand j'ai dit à ce maître, j'arrête l'aïkido, il m'a dit, mais demain, il passe à Paris. Un maître qui vient du Japon, ça devrait vous plaire. Lui avait senti que peut-être la cohésion était possible, l'accord était possible avec Maître Kobayashi. Et là, je viens dans votre question. Ce qui s'est passé pour moi quand j'ai rencontré Maître Kobayashi, c'est qu'à la seconde où je l'ai vu, j'ai su que c'était lui. J'ai su que c'était le bon. Et donc, j'ai décidé de laisser tomber le reste et puis de travailler avec lui et de partir avec lui. Et j'ai d'ailleurs arrêté les autres arts martiaux très rapidement pour ne faire plus que de l'aïkido, son aïkido. Donc je crois qu'il y a ça, il y a une question de personne, une question de rencontre, il y a une affinité particulière entre deux personnes qui fait qu'elles se rencontrent et que vraiment elles ont à partager, elles ont quelque chose à se donner.
Ça veut dire qu'en tant que maître, il vous a permis de progresser dans l'apprentissage?
Énormément, quand je l'ai rencontré, j'ai eu l'impression de n'avoir jamais rien fait avant, quoi.
Ah oui, à ce moment-là.
C'est comme si j'ai tout mis au panier et j'ai recommencé à zéro.
Alors ça faisait combien de temps que vous faisiez de l'aïkido?
Ça faisait 6-7 ans, quoi. Mais ça n'avait rien à voir avec ce qu'il faisait lui. Ce qu'il fait lui était absolument extraordinaire. Et puis c'était... Bon, l'homme était d'une élégance dans tous les domaines. Sa vie était construite à partir d'une véritable morale esthétique qui a beaucoup d'importance dans son enseignement. Lui disait toujours, ce qui est éthique est esthétique, ce qui est esthétique est efficace. D'accord, c'était pour nous, c'est ce que j'ai appelé moi la loi des trois, parce qu'une fois traduit en français, c'est pratique, éthique, esthétique, efficace. Et donc, pour nous, c'était vraiment très important de ne pas faire un geste qui ne soit pas beau. C'est pas l'efficacité à tout prix, l'aïkido. L'aïkido, c'est une efficacité qui ne doit pas blesser l'autre, dans laquelle on ne doit pas se mettre en danger. Et en plus, il faut que la relation soit belle. Donc il faut que le geste soit beau, les postures soient belles, etc. Sinon, c'est pas l'aïkido de Kobayashi. Si on l'applique à la vie en général, éthique, donc esthétique, donc efficace. C'est, par exemple, je lisais encore récemment un article, puisqu'on parlait d'avion tout à l'heure sur l'aviation. En avion, on dit que quand un avion est beau, il vole bien. Vous voyez, on retrouve comme ça, on recoupe. Et moi, c'est une idée que je trouve très importante. Je pense que la beauté, c'est quelque chose qui est constructif, créatif, et que, en particulier dans les relations humaines, il faut vraiment travailler là-dessus, travailler sur la qualité de la relation, sur la beauté de la relation. Parce qu'on trouve derrière, c'est absolument pas superficiel, au contraire, ça nous permet de dévoiler certains aspects, certains que l'on veut éviter, que l'on peut combattre, et d'autres, au contraire, que l'on peut valoriser et développer.
Alors là, vous avez choisi, à partir de la rencontre avec ce maître, avec lequel vous avez travaillé, entre guillemets, c'est pendant combien de temps?
25 ans.
Ah, 25 ans.
25 ans, jusqu'à sa mort.
Ouais, et pendant 25 ans, il vous a guidé, élevé dans l'art.
Pendant 25 ans déjà, j'ai fait hooké pour lui, c'est-à-dire j'ai subi les techniques quand il les démontrait. Et puis j'ai traduit ses cours, parce que lui ne parlait que japonais, donc j'ai traduit ses cours en français ou dans d'autres langues. J'organisais ses voyages, et puis bon, nous les placions ensemble. Hein. Donc nous faisions, j'allais dire, simplement le tour du monde ensemble. Et c'était déjà...
Vous faisiez le tour du monde, c'est-à-dire c'est-à-dire que lui donnait son enseignement à un enseignement...
Lui, il venait en Europe, souvent, pendant une longue période, il venait en Europe en hiver et en été. Ensuite, quelquefois, il allait en Amérique du Sud, il travaillait un peu en Asie du Sud-Est, et puis il travaillait au Japon, donc j'allais avec lui dans ces différents endroits.
Et donc, à partir de là, vous avez, vous, de votre côté, créé, par exemple, une académie autonome d'aïkido.
L'académie autonome d'aïkido, je l'ai créée en France en 1982. Ce qui m'avait dit, il faut retrouver une structure qui soit proche des écoles japonaises si on veut pouvoir enseigner vraiment, enfin aller au fond, quoi. Et donc, je le crée à ce moment-là.
Vous avez créé combien d'écoles à ce jour? On dit des dojos, moi.
Alors, des dojos, il y en a beaucoup, je les ai pas créés tous. Il y a des gens qui ont créé des dojos, qui sont mes élèves et qui ont créé des dojos. Mais disons que, bon, en France, on a 130 dojos, à peu près, puis autant entre l'Allemagne, l'Italie, et puis après on a des dojos en Espagne, etc. Enfin bon, on a une implantation relativement large, beaucoup en Pologne, un peu dans les pays de l'Est, etc. Enfin bon.
Alors aujourd'hui, c'est vous qui êtes le maître? Un maître?
Maître, c'est un mot qui est extrêmement complexe à employer en Europe. Déjà, vous savez, si vous êtes notaire, on dit maître, maître d'hôtel, maître d'école. Et donc à ce niveau-là, ça pourrait m'aller encore à peu près. Après maître, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, quand je parle de mon maître, je sais de quoi je parle. Je sais ce qu'il m'a apporté, je sais l'engagement que j'ai pris avec lui, je sais à quel point des fois j'ai fait passer ses idées avant les miennes, à quel point j'ai fait passer ses goûts, ses préférences avant les miennes. Et ça, c'est une chose dont je peux parler, de lui comme maître. Après, j'ai des élèves qui m'appellent maître, c'est à eux de savoir ce qu'ils mettent à l'intérieur du mot.
Alors justement, je vous pose la question, André Cognard, qu'est-ce que vous mettez dans ce mot maître? C'est-à-dire que cet homme vous a fait homme, j'allais dire, vous a construit?
Énormément, oui. Je pense que ma vie serait radicalement différente si je l'avais pas rencontré.
À ce point-là, oui.
Ah oui, vraiment radicalement différente. Il m'a montré des voies que j'aurais jamais soupçonnées. Il m'a ouvert des portes. Enfin, c'est un peu difficile d'expliquer à quel point on peut, à un moment, s'engager dans une relation comme celle-ci et en obtenir après des bénéfices considérables.
Mmh. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on commençait notre entretien avec cet épisode de l'avion qui n'était pas innocent. Vous avez fait de l'avion aussi par rapport à lui?
Eh bien, quand il est mort, si vous voulez, pendant 25 ans, j'ai fait des chutes avec lui. Il me projetait, c'est-à-dire j'étais en l'air un certain temps dans la journée. Et c'était vraiment un besoin pour moi qui était viscéral. Quand j'étais enfant, à 6-7 ans, j'allais dans les bois, je montais dans les arbres pour sauter, parce que j'avais le désir de voler. Et l'aïkido a répondu à ce désir de voler. C'est-à-dire que Kobayashi-sensei, quelqu'un qui a une technique qui est superbe, et les projections, on allait très haut, loin, enfin c'est vraiment... la chute, c'est pas je pose les bras par terre et je chute. Je suis en l'air pendant un certain temps, en suspension, autonome, seul, livré à moi-même. Il y a un problème de cohérence là dans cette solitude qui est extraordinaire. Et ça a répondu à mon besoin de voler. Et quand il est mort, il y a deux choses qui m'ont frappé immédiatement. Il m'avait vraiment préparé à sa mort, il m'avait annoncé sa mort, il m'avait... Bon, tout ça avait été travaillé entre nous, mais vraiment, quoi. Et quand il est mort, il y a deux choses qui me sont apparues. La première, c'est qui va faire cette technique maintenant? Et puis la deuxième question, c'est mais alors, je ne peux plus voler, quoi. C'est vraiment... c'est fini, quoi. Parce que personne... Enfin, je veux dire, ça n'a aucun intérêt pour moi d'être projeté par quelqu'un d'autre.
Ah, ce qui veut dire, André Cognard, pour résumer, si on peut parler ainsi, que votre vie a été dédiée à l'aïkido.
Oui, ou que j'ai eu la chance d'être appelé par l'aïkido et que ma vie soit à même de s'y conformer, quoi. Si vous voulez, quand vous dites dédié, ce qui m'inquiète un peu, c'est... Ça voudrait dire que j'ai donné quelque chose vraiment à l'aïkido. Pour l'instant, j'en suis plutôt à essayer de voir ce que l'aïkido m'a donné. Mmh. C'est un peu différent, vous voyez. C'est...
Mais en tout cas, André Cognard, vous enseignez l'aïkido aujourd'hui, vous formez plein de jeunes et peut-être de moins jeunes, et vous proposez aussi des expériences qui sont vraiment probablement très enrichissantes. Je parlais tout à l'heure de votre livre, Mémoire d'outre-moi, où vous emmenez les groupes faire de l'aïkido, par exemple, chez les Touaregs, dans le désert.
Oui, l'aïkido amène forcément à se poser beaucoup de questions sur l'homme, Il y a quelque chose de très humaniste dans l'aïkido. La philosophie de l'aïkido, c'est quand même faire passer l'autre avant soi. Ça, c'est la base, c'est la règle absolue. Quelqu'un vous attaque, vous pouvez considérer que parce qu'il vous agresse, il est mauvais. En aïkido, on considère absolument pas ça. On sait qu'il n'y a aucune motivation individuelle à l'attaque. On sait que chacun est en train de répondre à des obligations de loyauté qu'il ne connaît pas forcément. Chacun, dans tous les combats qu'il mène, estime son combat légitime et chacun le justifie par les amours qui le lient ou auxquels il se relie. Donc, quand quelqu'un vous agresse, vous pouvez vous dire il est mauvais ou bien vous pouvez essayer de prendre en considération tout ça et à ce moment-là vous dire nous sommes tous les deux impliqués dans un conflit puisque cette violence m'est adressée. Si elle m'est adressée, c'est pas par hasard. C'est que je peux y faire quelque chose. Donc quel est notre ennemi commun? Qu'est-ce qui nous met en conflit? Alors, au lieu de dire l'autre est mon ennemi, celui qui est face à moi est mon ennemi, quel est notre ennemi commun? Ça, c'est la démarche fondamentale de l'aïkido. Si vous faites ça, vous mettez l'autre avant vous, dans toute relation. Et c'est extrêmement important, parce qu'à partir de ce moment-là, tout ce qui est conflictuel et qui pourrait déboucher sur de la violence ne va pas forcément vers la violence. Le conflit, c'est quelque chose de créatif. Le conflit est créateur, ça c'est une des thématiques fondamentales de l'aïkido, mais la conflictualité n'amène pas forcément à la violence. Elle amène à la violence quand on n'est pas capable de détecter ce qui nous oppose. Donc forcément, on en vient à s'intéresser à l'autre, à l'autre, à l'autre, à l'autre, dans toutes ces dimensions, et la problématique de l'interculturalité est devenue une problématique centrale. Ce qui fait que j'ai voulu emmener des gens vers d'autres cultures qui me passionnent. Moi, j'adore l'Afrique, je suis un amoureux de l'Afrique, de toute l'Afrique, et du Sahara en particulier, et j'ai des amis Touareg, Attam, Madjanet, etc., enfin partout dans le désert, en Mauritanie, à Nouakchott et autour, enfin bon, ce sont vraiment des amis, des gens à qui on donne sa vie, on confie sa vie, ce sont des gens absolument merveilleux, et donc j'ai voulu amener vers eux, bien sûr des Européens, mais aussi des Asiatiques, des gens dont les cultures étaient radicalement différentes, pour voir comment ces rencontres interculturelles pouvaient se faire. Et j'ai observé que les hommes n'ont pas besoin de se parler pour reconnaître la valeur qu'ils ont réciproquement. Mais au contraire, j'ai dire, c'est la modération de l'attitude, c'est une forme de modération de soi qui est perceptible par tous, et qui fait que quand j'ai un ami qui rencontre un ami, même si je ne connais absolument pas, instantanément, ils sont liés. Ils sont liés à la fois parce qu'ils savent que je les aime l'un et l'autre, et en même temps ils sont liés parce qu'ils sont capables de se donner un regard qui est créatif, qui est positif, qui est bon. Je pense que l'aïkido est fait pour
un langage commun.
Voilà, c'est un langage qui a une dimension infraculturelle. Même si la culture japonaise est un des supports, il y a un langage derrière qui est un langage corporel, strictement corporel, et qui est donc un langage infraculturel, infraverbal et infraculturel.
Et en France, vous vous occupez aussi de des jeunes en difficulté, par exemple.
Oui,
on vous demande aussi dans les prisons.
Oui, je fais quelques travaux de ce type-là pour essayer de faire que l'aïkido soit un outil concret qui serve aux gens, qui serve aux autres, qui reste pas dans les dojos et surtout qui tombe pas dans ni dans le sport ni dans la mystique de bazar, quoi.
Que c'est ce soit piège, effectivement,
ouais. C'est le piège. D'ailleurs, on a tendance à être. Enfin, chaque fois que quelqu'un commence à aborder le sujet, la tendance c'est soit de nous classer dans l'un, soit de nous classer dans l'autre. Moi, je suis résolument au milieu, ni dans l'un ni dans l'autre. Pas de sport, l'aïkido n'est pas un sport, et c'est surtout pas. Il n'y a pas de dimension religieuse ou mystique dans l'aïkido, pas du tout. Il y a au contraire une dimension concrète, très solide, très pratique, avec une philosophie qui est fondée sur l'identité existe dans la relation, et donc l'identité est composée d'éthique. Qu'est-ce que je veux être? Si je réponds à la question qu'est-ce que je veux être, je réponds définitivement à la question qu'est-ce que je suis, et même à la question suis-je.
Ça va loin, effectivement. On vous appelle même dans les entreprises?
Oui, j'ai travaillé à développer quelques idées dans les entreprises.
Dans les conflits au sein de
voilà, la question du conflit en général, ou de la violence, ou l'autorité.
Vous écrivez aussi des pièces de théâtre qui sont inspirées en quelque sorte de l'aïkido?
Non, pas inspirées de l'aïkido, mais je me sers de l'aïkido pour aller travailler dans le milieu artistique.
Oui.
C'est-à-dire des artistes de différentes disciplines, des musiciens, des danseurs, des chanteurs, des comédiens, ont un intérêt pour l'aïkido et viennent chercher un certain nombre d'éléments que je peux leur donner, que certains de mes élèves leur donnent. Et quand j'écris, moi, c'est pour faire la démarche inverse. C'est j'écris. On m'a commandé, par exemple, l'an dernier, une pièce pour un théâtre à Barcelone. Je l'ai écrite pour répondre à la demande. Et ensuite, donc, quelqu'un l'a pris, l'a mis en scène. Je suis allé voir la mise en scène. C'était passionnant parce que c'est me mettre à l'épreuve aussi mes convictions et les mettre à l'épreuve dans ce milieu, qui est un milieu particulier que j'aime.
Alors, si les auditeurs qui nous écoutent en ce moment et qui sont sans doute fascinés par ce que vous venez de dire veulent aller plus loin, ils peuvent aller sur votre site, par exemple, non?
Oui, ils peuvent aller sur notre site. Enfin, il y a différents sites, mais
qui est
3 Aïkido 3. Le chiffre 3, aïkido-normal.org. Et puis à partir de là, il y a des ramifications, des liens vers tous les pays du monde et vers...
On ne peut pas vous manquer.
Je pense pas, non, ça me paraît difficile.
Merci André Cognard. Votre livre s'intitule Le dernier en date, parce que vous en avez écrit beaucoup. On aurait pu en parler aussi. Des romans aussi.
Oui, des romans sur l'initiation, sur la relation maître-élève. Un qui s'appelle le disciple, un qui s'appelle le maître, qui sont vraiment sur la relation initiatique dans l'enseignement de l'aïkido.
Bon, ben, il faut les lire et il faut aller sur votre site pour aller plus loin. Encore une fois, merci André Cognard.
Je vous remercie.
Et votre dernier livre en date s'intitule donc Mémoire d'outre-moi, publié aux éditions Santon. C'est la fin de cette édition de Signes Particuliers avec la collaboration évidemment de Véronique Fournier. Merci évidemment à Marion Robin, réalisation Marc Delouvrier, technique Guillaume Lacroux, notre adresse électronique.
signes.particulier@rfi.fr.
Signe particulier au pluriel. Rendez-vous demain pour une nouvelle rencontre et dans un instant un nouveau journal sur RFI.